Maintenant, je vais présenter le conférencier de ce soir, Vincent Courtillot. Vincent Courtillot est géophysicien. Il est né en 1948. Il est professeur de géophysique à l'université Denis Diderot Paris 7, à l'Institut universitaire de France et chercheur à l'Institut de physique du Globe de Paris. Il est diplômé de l'École des mines de Paris, de l'université de Stanford et des universités de Paris 6, Pierre et Marie Curie, et Paris 7, Denis Diderot. Il a enseigné notamment à Stanford, Santa Barbara et au Caltech. Il est spécialiste des variations dans le temps du champ magnétique terrestre et de la tectonique des plaques. Il a publié environ 170 articles scientifiques dans des revues nationales et internationales, ainsi qu'un livre qui traite directement de ce qui va nous présenter aujourd'hui, La vie en catastrophe, qui est publié chez Fayard en 1995 et qui a été traduit au Cambridge University Press en 1999. Il a reçu la médaille d'argent du CNRS. Il est membre de l'Academia Europa. Il est président sortant de l'Union européenne des géosciences et il vient de recevoir le prix d'Olonien de l'Académie des sciences. Vincent Courtillot, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je suis très heureux de me retrouver ce soir pour la troisième fois devant le public impressionnant, sympathique, obscur pour moi, étant donné la force des spots lumineux de l'Université de tous les savoirs, qui est une entreprise que je suis très heureux, comme tous les conférenciers qui s'y succèdent, de soutenir depuis qu'elle a été lancée par notre ami Michaud voici quelques années. J'espère qu'il n'y a parmi vous pas trop de fidèles, dans la mesure où le sujet que je vais traiter ce soir, les éruptions volcaniques et l'évolution des espèces biologiques sur Terre depuis bien longtemps, depuis presque l'aube des temps géologiques, est un sujet que j'avais abordé il y a 2 ans dans la première conférence que j'ai donnée devant l'Université de tous les savoirs. Et donc, si par malheur, plusieurs d'entre vous étaient déjà présents il y a 2 ans, je leur présente d'avance mes excuses dans la mesure où une grande partie de ce que je vais vous raconter ce soir vous a déjà été raconté il y a quelque temps. Mais c'est un sujet scientifique qui bouge. De ce que je vais vous dire aujourd'hui, presque rien n'était écrit en 1985, donc il y a à peine plus de 15 ans. Et ce que je vous ai exposé, ce que j'ai exposé à certains il y a 2 ans, a continué à évoluer. C'est un sujet en pleine adaptation. Et donc, un certain nombre des résultats que je vais vous montrer ce soir ont moins de quelques mois. Pourquoi avoir choisi ce sujet des relations possibles, car il faut laisser là pour l'instant encore un point d'interrogation, entre les éruptions volcaniques, donc un phénomène géologique, et l'évolution des espèces, donc un phénomène biologique qui nous intéresse dans la mesure où c'est cette évolution qui a conduit au monde vivant tel que nous le connaissons aujourd'hui, et à une des espèces qui nous intéresse en particulier, c'est nous-mêmes. Depuis quelques dizaines d'années, on n'a plus de doute sur le fait que le volcanisme peut affecter le climat. Sur la diapositive que vous voyez au-dessus de moi, une éruption volcanique du volcan Rabaul dans les Philippines, vue de très haute altitude, vous observez tout au fond en haut à gauche la courbure de la Terre, donc vous voyez à quelle échelle le phénomène se présente, une immense colonne volcanique, un énorme nuage qui couvre plus de 200 km. Et bien pourtant, c'est un tout petit phénomène par rapport à ceux qui se sont produits dans un passé plus lointain de l'histoire de la Terre. Et nous savons que chaque fois que se produisent de très grandes éruptions, en particulier quand ces éruptions sont très riches en soufre, le climat en est légèrement modifié. La couleur des couchers de soleil est différente pendant plusieurs mois. Et en général, la température moyenne de la basse atmosphère baisse de quelques dixièmes de degrés, donc quelque chose qui paraît très faible, mais qui est néanmoins parfaitement mesurable et qui a des conséquences vérifiables sur le climat. La plus grande éruption historique est celle qui, en 1783, a affecté l'Islande. Lors de cette éruption, 10 km cubes de lave ont été crachés par des fissures et de la lave est sortie de la croûte terrestre. Et le climat de tout l'hémisphère nord en a été affecté pendant plus d'une année. 1783 et 1784 sont restés célèbres dans les annales de la pré-météorologie. On parle de l'année sans été. Il y a eu des brouillards exceptionnels sur toute l'Europe du Nord. Il a fait un froid exceptionnel sur toute l'Amérique du Nord. Les phénomènes météorologiques se sont retrouvés jusqu'en Chine. Les les cueillettes de raisins et de blé de l'année suivante ont été lamentables. Et on dit que c'est peut-être l'une des raisons qui ont fait de la dizaine d'années qui précède la Révolution française une année climatiquement si désastreuse que les populations affectées, entre autres, par la famine en étaient évidemment particulièrement incommodées. Le problème est de savoir si ce volcanisme que nous pouvons observer à l'échelle historique et récente s'est produit dans le passé géologique de la Terre, et si oui, à quelle échelle ? Est-ce qu'il y a eu toujours des éruptions comme celles que vous voyez là ? Est-ce qu'il y a eu des éruptions beaucoup plus violentes que les plus violentes éruptions que nous ayons jamais connues depuis que l'espèce humaine en prend note de façon historique ? Et sans vous faire attendre, la réponse va être oui. Alors, pour regarder un peu ce qui s'est passé il y a des dizaines, voire des centaines de millions d'années, nous allons prendre un phénomène, une observation que nous fournissent les paléontologues, ces spécialistes de l'étude des fossiles qui, depuis plusieurs siècles, amassent information sur information pour retrouver les traces de la vie passée sur Terre et en déduire comment étaient les milieux, comment étaient les écosystèmes, quelle était la diversité de la vie sur Terre il y a 10, 50, 100, 1000 millions d'années. Comme je le dis chaque fois au début de ces exposés de géologues, vous allez être obligé pendant une heure ou un peu moins d'une heure de prendre comme une unité de temps qui devrait vous devenir familière le million d'années, et ce million d'années devrait pour vous battre le temps un peu comme l'année dans une vie humaine. Le graphique que vous voyez ici à droite, en bas, la courbe que vous voyez, représente l'évolution de la diversité sur Terre, telle que nous la restituent les paléontologues, les ossements de toutes les espèces fossiles qu'ils ont ramassées. Dans la mesure où je pense que les caractères doivent être un peu petits à lire, au moins pour les gens qui sont au fond, vous avez sur l'axe horizontal le temps qui s'écoule. À gauche, c'était il y a 600 millions d'années, au début de ce que nous appelons l'ère primaire ou paléozoïque. À droite, c'est aujourd'hui. Et la courbe noire représente l'évolution de la diversité. Vous voyez exploser véritablement cette diversité au début de la courbe, elle augmente très rapidement. C'est ce qu'on appelle la fameuse explosion du Cambrien, le début de la grande diversification de la vie sur Terre. Puis vous voyez cette courbe un peu accidentée suivre un plateau. Et il y a 250 millions d'années, là où vous voyez un trait vertical interrompu, il y a une chute brutale de la diversité. De nombreuses espèces, et quand on dit de nombreuses, c'est sans doute des centaines de milliers d'espèces, disparaissent de la surface de la Terre. Et puis, ça reprend quelques accidents. Et vous voyez un second événement marqué plus à droite par une ligne verticale interrompue, il y a 65 millions d'années, j'y passerai pas mal de temps, c'est la fameuse limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. C'est le moment où ont disparu les dinosaures, mais bien plus que les dinosaures, là encore, des milliers et des milliers d'espèces dans l'air, sur les mers, dans les lacs, sur Terre, n'ont pas passé cette limite. Qu'est-ce qui les a arrêtés ? Et au lendemain de cette catastrophe, vous voyez que la vie a repris de plus belle. Vous voyez la courbe qui remonte à toute vitesse pour atteindre son niveau d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la diversité est plus grande sur Terre qu'elle n'a jamais été depuis le début des temps fossilifères, depuis 600 millions d'années. Si vous imaginez que cette courbe représente une étape du Tour de France, c'est d'actualité en ce moment, et que vous imaginez que votre coureur sur sa bicyclette commence à monter à gauche, il va peiner pendant la montée, va connaître quelques petits accidents, et puis lors de ses marches d'escalier descendantes, il va se casser la figure. C'est ce qu'exprime un peu plus mathématiquement la courbe du haut. La courbe du haut, c'est la pente de la montagne qu'on est en train de grimper, c'est la pente de la colline, c'est ce qu'on appelle en termes mathématiques la dérivée, et ça représente en gros le nombre d'espèces qui disparaissent par unité de temps ici en quelques millions d'années. C'est donc l'intensité des extinctions. Vous voyez que cette intensité des extinctions, la plupart du temps, elle est dans ce nuage gris qui descend de la gauche vers la droite pendant ces mêmes 600 millions d'années. Ça, c'est ce qu'on appelle le fond continu des extinctions. Il y a tout le temps des extinctions. La première chose importante à retenir, c'est que chaque jour, des espèces s'éteignent, des espèces apparaissent. Ça fait partie du processus normal, du processus de l'évolution des espèces. Et donc, ce n'est pas une question pour un géologue que je suis, c'est une question pour un biologiste, et vous avez des exposés dans cette série qui sont consacrés à ce sujet. Tout le temps, il y a des extinctions. Mais vous voyez qu'il y a quelques moments, j'allais dire privilégiés, mais je ne suis pas sûr que le terme de privilégié soit bien le bon terme, pendant lesquels le taux d'extinction est énorme. Vous voyez ces pics qui sortent du nuage noir à 5 ou 6 reprises. C'est ce qu'on appelle les grandes extinctions en masse. Pendant ces phénomènes qui sont justement les plus grandes marches d'escalier, et la plus sévère se trouve il y a 250 millions d'années, c'est, si vous partez de la droite, c'est-à-dire du présent, la troisième extinction que vous rencontrez, c'est la fin de l'ère primaire, le début de l'ère secondaire. 95% de toutes les espèces qui vivaient sur Terre ont disparu, peut-être en l'espace de moins d'un million d'années. C'est probablement 99% de tous les individus qui ont disparu pendant cette période. Donc, transposez ça aujourd'hui, 99% de tous les brins d'herbe, de tous les oiseaux, de tous les insectes, de toutes les tortues, de tous les individus de l'espèce humaine, et pour certains plus encore, puisque des milliers et des milliers d'espèces ont entièrement disparu et n'ont pas passé la limite. Ces 5 extinctions en masse, vous avez leurs noms scientifiques qui figurent à gauche, et elles sont listées là, de gauche à droite, c'est-à-dire de la plus ancienne, la limite ordovicien-silurien, il y a environ 440 millions d'années, à la plus récente, la limite crétacé-tertiaire, la fameuse limite de la fin des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Eh bien, la question, c'est qu'est-ce qui peut bien être responsable d'événements aussi cataclysmiques? Il faut que vous soyez conscient que vous devez oublier une grande partie de la géologie que vous avez pu apprendre au collège ou au lycée, une géologie dans laquelle on vous disait en gros, quand tu vois une chaîne de montagnes, quand tu vois une profonde vallée, un glacier, des moraines, un océan, eh bien, tout ça, c'est en train de se produire aujourd'hui. Simplement, ça se produit si lentement qu'il faut la longueur des temps géologiques pour voir la montagne monter de 1000 mètres, l'océan s'ouvrir de 1000 km, la faille de San Andreas en Californie se décrocher de 200 km, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des phénomènes réguliers, des phénomènes qui se produisent tous les jours aujourd'hui, et c'est en effet la profondeur, au sens de Braudel, la profondeur du temps géologique qui fait que ces événements s'accumulent et donnent des effets impressionnants et mesurables. Eh bien, les extinctions, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas eu d'extinction en masse depuis 65 millions d'années. Je vais vous parler de phénomènes qui sont très rares et que la Terre n'a pas connus depuis des millions et des millions d'années. Et la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce qui a bien pu causer cela? 3 grandes familles d'hypothèses s'opposent depuis quelques dizaines d'années pour expliquer ces extinctions, et en particulier la fameuse extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. C'est ce que résume ce dessin humoristique d'un de mes collègues. L'une de ces théories illustrées à gauche veut que les dinosaures aient succombé victimes d'un énorme astéroïde. C'est celle qui est la plus connue aujourd'hui, c'est celle qui est enseignée dans la plupart des livres de sciences naturelles. Je reviens d'un séjour de 6 mois aux États-Unis où j'ai pu regarder les livres qui sont offerts aux jeunes étudiants qui commencent leurs études à l'université. Cette théorie est considérée comme définitivement démontrée dans la plupart des livres américains. Aux étudiants américains d'aujourd'hui qui entrent à l'université, on n'explique que le dessin de gauche en disant « voilà, c'est comme ça, on sait que ça s'est produit comme ça ». Eh bien, on va voir ensemble si c'est si sûr que cela. Seconde hypothèse, et c'est comme ça que j'ai commencé tout à l'heure, et vous vous doutez, étant donné le titre de mon exposé, que je vais y passer quelques temps, c'est l'hypothèse volcanique. Est-ce que ce ne sont pas les gaz, les aérosols, les poussières libérées par de gigantesques éruptions volcaniques qui auraient été responsables des bouleversements climatiques ayant conduit à un empoisonnement de l'atmosphère et à une incapacité de survivre, au moins pour un certain nombre d'espèces? Et puis une chose que je n'ai pas représentée ici, qui est plutôt du domaine des biologistes, mais qu'il est important que je vous signale, c'est est-ce que le processus d'évolution des espèces en lui-même, c'est-à-dire les relations qui existent entre les espèces qui se mangent, qui se consomment, qui vivent ensemble, qui sont parasites, est-ce que ces processus purement biologiques ne peuvent pas de temps en temps dégénérer au point de donner par eux-mêmes, sans qu'il y ait besoin de faire appel à un deus ex machina, une disparition massive d'espèces. Certains biologistes pensent que ce type d'hypothèse est possible et qu'on n'a besoin de faire appel ni à une météorite, ni à une éruption volcanique pour expliquer les extinctions. Et je pense que ce type d'hypothèse est parfaitement valide. Le problème, comme toujours en science, et c'est le problème à travers lequel je vais essayer de vous promener pendant ces quelques dizaines de minutes, c'est qu'il est facile de formuler une hypothèse. Elle n'a d'intérêt en science que si elle donne lieu à des prévisions et ensuite à une vérification par le biais de l'observation sur le terrain ou de l'expérimentation. Le physicien et le chimiste, en général, vérifient entre guillemets leur théorie par l'expérience au laboratoire. Le géologue doit aller regarder la Terre et c'est l'observation sur le terrain qui lui dira si son hypothèse est bonne ou non. Alors, regardons quelques instants cette fameuse extinction de la limite Crétacé-Tertiaire. Je n'y passerai pas trop de temps, mais j'y passerai quand même à peu près le tiers du temps qui me reste, dans la mesure où c'est désormais la mieux connue, où on en a beaucoup parlé, et où, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, dans les livres de terminal français, ce sujet est désormais largement abordé, à tel point que quand les étudiants qui ont bien travaillé en terminale arrivent à l'université, je me demande quelquefois ce qui nous reste à leur enseigner. Et c'est valable pour les plus jeunes d'entre vous qui n'êtes pas encore passés par ce stade de la terminale et qui auraient à subir sans doute le chapitre consacré à ces deux hypothèses alternatives dans quelques années. L'histoire a commencé il y a aujourd'hui un peu plus de 20 ans, quand en Italie, à côté du village de Gubbio, et c'est de là que vient la diapositive que vous voyez ici, un de mes collègues américains, Walter Alvarez, a ramassé des échantillons de calcaire, ces calcaires blancs-bleutés que vous voyez en bas à droite de cette diapositive, ou blancs-rosâtres que vous voyez en haut à gauche, et s'est aperçu que quand il regardait à la loupe des échantillons de roches, des lames minces coupées dans ces cailloux, eh bien, les espèces qui vivaient dans cette mer chaude, car ces calcaires ont été déposés il y a 65 millions d'années dans une mer chaude, eh bien, tous ceux qui sont blancs bleutés en bas à droite sont de l'ère secondaire. On y trouve des espèces minuscules de bestioles qui vivaient dans l'eau, des foraminifères en particulier, qui sont typiques de l'ère secondaire. Et puis, quand on passe l'espèce de niveau noirâtre qui traverse la photo en diagonale du bas à gauche au haut à droite, et qu'on va de l'autre côté, eh bien, on s'aperçoit que des lames minces découpées dans ces calcaires un peu plus rosâtres, un peu plus oxydés, ne montrent pour les premiers niveaux pratiquement plus de traces de vie, et ensuite on voit réapparaître d'autres foraminifères, et pour la plupart, ce ne sont plus les mêmes. La plupart des espèces de foraminifères qui existaient en dessous n'ont pas franchi ce centimètre de roches noirâtres, qui sont en gros des argiles, et qui représentent un moment de l'histoire de la Terre où il a bien dû se passer quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'ont fait Walter Alvarez et ses collègues il y a une vingtaine d'années, c'est d'analyser en grand détail, d'un point de vue chimique, d'un point de vue paléontologique, en regardant les microfossiles qu'elles contiennent, ces roches, en essayant de les dater. On a aussi utilisé, et c'est ma discipline plus particulièrement, le paléomagnétisme, c'est-à-dire le suivi de l'aimantation fine de ces roches. Et on s'est aperçu que cette couche d'argile noirâtre était tout à fait atypique, exceptionnelle, qu'elle avait une composition chimique qu'on ne rencontre pratiquement nulle part ailleurs dans les enregistrements, dans les feuillets des roches sédimentaires que les géologues étudient depuis maintenant bientôt deux siècles. Et sur le diagramme que vous voyez ici, on a représenté une coupe où, selon l'axe horizontal, vous avez tout simplement l'épaisseur à travers les roches que vous venez de voir sur la diapositive précédente exprimée en centimètres. Donc à gauche, on est à 50 cm au-dessus de la couche marron. À droite, on est à 50 cm en dessous. Donc c'est jeune à gauche, vieux à droite. Le temps s'écoule de la droite vers la gauche. Et on a reporté avec la courbe rouge la mesure de la concentration en un élément très rare dans la croûte terrestre, un métal qui s'appelle l'iridium. Et on s'aperçoit que la concentration dans ce métal, qui est pratiquement absent de la croûte terrestre, si vous ramassez n'importe où un morceau de croûte normale, de roche normale sur Terre, et que vous mesurez sa concentration en iridium, vous trouverez quelque chose qui est très très bas. Très bas, ça veut dire les points qui sont en bas de la courbe que vous voyez ici, certainement pas les valeurs qu'on observe, ou, eh bien, vous voyez au milieu, justement au niveau de la couche d'argile. Cette couche d'argile est anormalement riche en iridium. Et l'iridium, si on ne le connaît guère dans la croûte terrestre, on le connaît dans les météorites. Ce dont on s'est aperçu aujourd'hui aussi, en regardant toujours à la loupe, ou plus exactement au microscope polarisant, analysant, très fortement grossi, des grains de minéraux, ici un grain de quartz qui fait environ 1 mm. Donc vous voyez, je n'essaierai pas de deviner l'agrandissement de ce millimètre sur l'écran qui est derrière moi. Vous voyez que ce grain de quartz montre des rayures noires, deux familles de rayures parallèles très particulières. Eh bien, si vous ramassez un grain de quartz dans la forêt de Fontainebleau et que vous l'analysez de la même façon, il vous montrera sans doute ces teintes jaunes et bleues, mais aucun de ces traits noirs, ou en tout cas beaucoup moins. Ces traits noirs, on ne les connaît dans les grains de quartz que quand on leur a tapé dessus violemment, c'est-à-dire quand ils ont été traversés par une onde de choc, exactement le type d'onde de choc qu'on peut attendre quand une météorite frappe la Terre et que l'onde de choc qui en résulte traverse les roches encaissantes. Ces roches sont broyées, choquées, envoyées en l'air et peuvent retomber quand les grains sont suffisamment petits, à très grande distance. C'est sans doute le cas de ce grain de quartz que vous voyez ici. La rareté de ces observations, ou plutôt la rareté de l'occurrence de ces observations, a conduit Alvarez et ses collègues à faire l'hypothèse qu'un impact de météorite avait bien touché la Terre quelque part il y a 65 millions d'années, qu'il avait produit l'onde de choc, produit ces quartz bizarres, déposé cet iridium d'origine extraterrestre étonnant et plein d'autres observations que je n'ai pas le temps de résumer aujourd'hui et qui semblent toutes, depuis 20 ans, bien aller dans la même direction. Il y a bien eu un impact et on a eu en plus la chance de retrouver la trace du cratère de cet impact. Vous avez certainement tous déjà vu, et je n'en ai pas remis de photos ici, des cratères sur la Lune. Et vous avez sûrement vu des photos de cratères sur Terre, le plus célèbre qu'on montre pratiquement toujours étant le météore cratère en Arizona, un petit cratère ravissant de quelques kilomètres de diamètre, fabriqué il y a seulement 20 000 ans par une petite météorite d'une centaine de mètres de diamètre, peut-être même quelques dizaines de mètres de diamètre tout au plus, donc un petit objet qui a pourtant fait un cratère de 2 km. Eh bien, sous les sédiments du Mexique, de la péninsule du Yucatan au Mexique, où à la surface on ne voit rien parce que depuis les sédiments, les roches se sont déposées et ont effacé la trace de ce phénomène ancien, en promenant un gravimètre, un instrument qui mesure la densité des roches, l'attraction de la pesanteur, on a réussi à retrouver le cratère. Et ce que vous voyez ici, cette fausse carte topographique, vous avez l'impression de voir ici en couleur un relief, ce n'est pas un vrai relief, ce relief c'est l'amplitude de la pesanteur dans le Yucatan et le rectangle que vous voyez là fait en gros 200 km de côté, 200 sur 200. Et vous voyez au milieu d'un paysage tourmenté une série d'au moins deux cercles bien marqués qui correspondent à des roches plus légères. C'est la trace du cratère en profondeur, caché sous 3 km de sédiments et qu'on a retrouvé grâce à la gravimétrie. On peut en mesurer le diamètre, il fait 150 km. C'est le plus grand cratère d'impact de météorite connu aujourd'hui sur Terre. Le problème, c'est que la Terre est un astre dynamique. Vous savez qu'il y a la dérive des continents, la tectonique des plaques. Il y a des tas d'endroits où la croûte repasse sous le manteau et fond définitivement et donc on perd l'information. Vous avez l'érosion, la sédimentation. Et donc, on a plein de raisons qui font que la croûte terrestre est sans arrêt nettoyée, rajeunie, et qu'on n'en garde pas les traces très anciennes. Sur la Lune, en revanche, qui est un astre inerte depuis 4 milliards d'années, les traces de cratères sont parfaitement conservées parce qu'il n'y a pas d'érosion, pas de sédimentation, pas de tectonique des plaques, et on voit des cratères considérables, beaucoup plus gros que celui-là. Il y a des cratères qui font pratiquement 1000 km de diamètre sur la Lune. Et donc, on sait que la Terre a dû avoir le même type de bombardement, mais il y a très longtemps, il y a plus de 4 milliards d'années, pas récemment. Et là, eh bien, ce cratère assez grand, on l'a daté par forage. Le travail est toujours en cours. Je raconte ça à chaque conférence parce que les résultats ne sont pas encore tous publiés, loin de là, mais il semble bien qu'il ait été daté de 65 millions d'années. On a donc bien retrouvé le cratère de l'impact de la météorite des dinosaures. Et c'est sur la base de cette impressionnante série d'observations indiscutables que la plupart des scientifiques américains considèrent que la théorie de l'impact est démontrée et passe de l'idée qu'un impact s'est produit sur Terre il y a 65 millions d'années et un très gros impact, ce qui à mes yeux ne fait aucun doute, à l'idée que c'est bien cet impact qui a tué les dinosaures et qui a fait les extinctions. Et ça, je pense que ça n'est pas totalement acquis. Pourquoi n'est-ce pas acquis ? Ça n'est pas acquis parce que ce n'est pas facile d'enregistrer l'extinction des espèces, et ce n'est pas facile pour un paléontologue, pour un sédimentologue, pour un stratigraphe, de lire ces archives qui nous sont conservées dans les roches, dans les feuilletés de roches qui sont conservées un peu partout sur Terre. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de problèmes, et je n'en ai fait qu'une liste très incomplète ici, avec l'enregistrement sédimentaire. D'abord, vous n'avez qu'à regarder dans votre jardin, si vous avez un jardin, il n'y a pas en continuité des roches qui sont en train de se déposer sur votre pelouse. Et donc, si tout d'un coup, une crue amène un mètre de roche dans votre jardin et puis que vous l'abandonnez, le géologue qui viendra dans 10 millions d'années trouvera cette couche de boue qui s'est déposée dans votre jardin. En dessous, il trouvera le niveau de l'herbe. Il ne trouvera pas toute une période de temps où tout simplement, il ne s'est rien déposé. La plupart du temps, il ne se dépose rien, particulièrement en domaine continental. Puis si ça se dépose, eh bien, le sol est plein de vie. Il y a des vers, il y a des animaux qui fouissent en permanence le sous-sol. Et cette bioturbation, comme nous l'appelons, va brouiller le signal. Si vous avez des petits fossiles bien rangés dans l'ordre où ils ont disparu en profondeur, eh bien, ces animaux fouisseurs vont tout mélanger et vont vous rendre la lecture du signal plus difficile. Puis il y a des endroits où tout simplement la matière est érodée. Si vous avez la crue dont je parlais tout à l'heure qui vous arrache 10 mètres de terrain, eh bien, ces 10 mètres de terrain, c'est un enregistrement perdu à tout jamais. Enfin, se faire fossiliser est rare. Nous mourrons tous un jour, nous donnerons tous naissance, ou plus exactement, se formera à partir de nous un squelette. La chance qu'il y a que ce squelette soit préservé dans 1 million d'années est extrêmement faible. Il y a toute chance que nous soyons déplacés, transformés en poussière, qu'on disparaisse. Et c'est vrai de tous les animaux. Quand on trouve un fossile, on trouve quelque chose de rare. La plupart des individus qui ont vécu sur Terre n'ont pas été fossilisés. Ensuite, les fossiles se préservent plus ou moins bien. Et ensuite, les fossiles, on ne les a pas tous trouvés. On les trouve sur la coupe d'une route, sur l'affleurement d'une falaise en Normandie. Mais la plupart du volume nous est encore inaccessible. Donc, il faut que vous soyez conscient que cet enregistrement de la vie passée sur Terre que nous restituent les paléontologues à partir des fossiles est un enregistrement extraordinairement incomplet. Et en particulier, quand on trouve un fossile, on n'est pas certain que ça soit le dernier. Si vous ramassez des os de dinosaures, il y aura un moment où vous arriverez au dernier os de dinosaure qui vous dit que c'est le moment où les dinosaures ont disparu. Ils ont peut-être existé à 100 km à côté pendant encore 100 000 ans. Tout simplement, il ne s'en est pas préservé à l'endroit où vous l'avez ramassé. Toute cette longue digression un petit peu technique est destinée à vous dire que ce n'est pas simple de lire l'enregistrement fossile et qu'on peut montrer, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer ici en détail, qu'une extinction graduelle où les bêtes disparaissent les unes derrière les autres, c'est ce qui est représenté dans le dessin du haut à gauche, où chaque petit trait vertical représente la durée de vie d'une espèce, le temps, dans ce cas-là, est vieux en bas, jeune en haut. Vous voyez disparaître des espèces les unes après les autres, puis en vous vous en voyez apparaître graduellement. Ceci, c'est une extinction graduelle. Au contraire, au milieu, juste en dessous, vous voyez une extinction catastrophique où vous voyez 10 espèces disparaître tout d'un coup à un niveau donné, et puis ça réapparaît derrière. Eh bien, malheureusement, les caprices de l'enregistrement sédimentaire font qu'une extinction graduelle peut avoir l'air instantanée et inversement. Donc, c'est simplement une prudence qu'il faut toujours avoir en tête. Et voici deux vrais enregistrements de fossiles dans deux coupes géologiques, en haut venant du Texas et en bas venant de Tunisie, où les petits traits de couleur, là encore, représentent l'existence d'une espèce, d'une bête particulière. Chaque trait, c'est donc une espèce différente. La somme de tous les traits, c'est toutes les bêtes qui vivaient à un moment donné. C'est l'écosystème, c'était le monde tel qu'il était à ce moment-là. Et vous voyez qu'on a l'impression, le niveau à point noir étant le niveau où on a retrouvé l'iridium, la fameuse trace de l'impact de l'astéroïde, on a l'impression dans les deux cas qu'il y a déjà des extinctions qui se forment quelques mètres en dessous, en termes stratigraphiques, ça veut dire quelques dizaines ou centaines de milliers d'années avant le moment de l'impact. Alors ça, c'est l'objet d'une grande controverse. Il faut être honnête en disant que, à ma connaissance à ce jour, les paléontologues se disputent encore. Et c'est normal, la dispute est l'essence de l'évolution en science, pour dire ou bien cet enregistrement représente bien des extinctions en étapes successives, et donc il ne s'est pas produit un seul événement. Il faut trouver une cascade d'événements successifs durant sur un peu plus longtemps pour expliquer les extinctions, ou bien il y a eu un artefact, il y a eu une perturbation sédimentaire, et en fait, toutes ces espèces, j'aurais dû les voir s'éteindre exactement au niveau de l'iridium, c'est-à-dire au niveau de l'impact de la météorite. Donc, ceci est débattu. Cette figure est là pour vous montrer qu'il y a au moins une famille de paléontologues qui pensent qu'on voit déjà des choses se passer avant l'impact, et mon impression de non-paléontologue, je ne suis pas spécialiste, et c'est encore un problème sur lequel j'insiste toujours, tout scientifique est obligé de travailler dans la discipline où il est spécialiste, mais aussi d'utiliser les données des collègues dans des disciplines où il n'est pas spécialiste, et donc il n'est pas sûr d'avoir l'esprit suffisamment critique pour pouvoir trouver si c'est juste ou si c'est pas juste. Je pense, moi, qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent que c'est probablement exact de dire que les extinctions n'ont pas attendu le niveau d'iridium pour commencer à se produire. Et si ça, c'est vrai, eh ben, j'ai besoin d'une autre explication. Et cette explication, nous sommes allés la chercher en Inde. Vous voyez ici une carte de l'Inde, une carte géologique. Les couleurs correspondent à l'âge des terrains. Et la grande zone qui est en vert, la grande tache verte qui est au milieu de la figure, c'est la zone qu'on appelle les trappes du Deccan, une immense extension sur plus de 500 000 km² de lave basaltique répartie en couches qu'on peut suivre sur des dizaines et parfois une centaine de kilomètres, dont chaque couche individuelle fait parfois des dizaines, voire même une centaine de mètres d'épaisseur. Ce sont des coulées volcaniques dont le volume est incroyable. Vous voyez ici sur cette photo, dans la région du Mahabaleshwar, des rivières qui ont érodé cet empilement de lave. Vous voyez combien c'est plat, c'est vraiment un gâteau. Et vous voyez qu'il y a des dizaines de coulées superposées. Certaines de ces coulées ont un volume de plus de 1000 km³. Je vous ai dit tout à l'heure, et gardez ce chiffre en tête, la plus grande éruption basaltique qu'on ait connue de mémoire humaine dans les derniers millénaires, c'est l'éruption de 1783 en Islande. Il y a eu une coulée de lave, elle faisait 10 km³. Vous avez là des centaines de coulées de lave, dont certaines font 1000 km³, 100 fois plus que la plus grande coulée des temps historiques, laquelle avait fait un effet non négligeable sur le climat. Vous voyez où je veux venir ? Imaginez que la séquence de ces événements ait pu avoir un effet climatique et pour le moins raisonnable. Ce qu'il nous faut faire, c'est savoir de quand datent ces basaltes, pour pouvoir voir s'ils sont entrés en éruption en très peu de temps ou en très longtemps, et à un moment où il y avait des extinctions ou à un moment où il n'y avait rien du tout. Eh bien, je vais aller assez vite sur cette partie-là sur laquelle j'ai passé il y a 2 ans nettement plus de temps. Ça a été une grande partie du travail de plusieurs équipes dans le monde entre 1985 et 1990, et en fait ça continue jusqu'à aujourd'hui, que de dater par toutes les meilleures techniques de la géologie ces laves du Deccan et d'autres que je vous montrerai tout à l'heure. Et pour faire bref, ces datations par des méthodes radioactives, des méthodes sœurs de la méthode carbone 14, mais qui utilisent, comme vous le voyez ici dans le jargon chimique, le potassium K et l'argon AR, ou les isotopes 40 et 39 de l'argon, eh bien on a montré que les trappes du Deccan avaient bien 65 millions d'années, à 1 million d'années près. Ils ont bien l'âge de l'extinction des dinosaures. Vous retrouvez ici sur cette figure la carte géologique de l'Inde, ce qui était tout à l'heure en vert est représenté aujourd'hui représenté là en gris. Vous voyez où est la ville de Bombay, sur la côte de la mer d'Arabie. Et vous voyez que j'ai dessiné un petit trait qui s'étend vers le haut à droite, c'est-à-dire vers le nord-est de Bombay à Igatpuri. J'ai fait là ce que les géologues appellent une coupe à travers les trappes du Deccan. Et cette coupe de plusieurs centaines de kilomètres, vous la voyez, en fait j'exagère, d'une cinquantaine de kilomètres, vous la voyez en dessous, et vous la voyez représentée en fonction de l'altitude. À gauche, on n'est pas loin du niveau de la mer. À droite, on est en train de monter sur le plateau qui atteint 1700 mètres d'altitude. Les points noirs avec des codes sont les échantillons que nous avons ramassés, et une de mes étudiantes en thèse, Corinne Hoffmann, a très récemment mesuré avec un grand soin, parce que nous essayons d'utiliser des techniques de plus en plus précises au fur et à mesure de l'évolution de la science, les âges de ces échantillons. Elle a trouvé pour les échantillons du bas un âge, vous le voyez, de 65,4 millions d'années avec une incertitude d'un peu plus d'un million d'années. Quand elle a mesuré les deux échantillons du milieu, elle a trouvé 65,0 et 65,4. Et quand elle a regardé les deux échantillons du haut, elle a trouvé 65,7 et 65,8. Si vous comparez ces cinq chiffres, vous voyez qu'ils sont indistinguables. Leur écart est plus petit que l'incertitude de mes observations, de ma méthode de mesure. Nous ne sommes donc pas, avec nos meilleures méthodes de datation aujourd'hui, capables de faire la différence entre un caillou du haut et un caillou du bas. Ces laves se sont mises en place en 65 millions d'années, manifestement en très peu de temps. Nous avons deux autres types d'observations cruciales pour évaluer la durée de l'éruption des trappes du Deccan. Je me contente de les rappeler ici sans passer beaucoup de temps dessus. Si ça vous intéresse, on pourra en parler éventuellement au moment des questions. Nous avons mesuré la polarité magnétique des laves et nous avons trouvé que le champ magnétique enregistré dans cette pile de 2 km de basalte ne s'est inversé que deux fois au cours de toute l'éruption de la pile. Or, le champ magnétique de la Terre ne cesse de s'inverser. Ne voir que quelques inversions, c'est être certain que le phénomène a été très rapide, tout simplement. Et puis la paléontologie, cette bonne vieille paléontologie, a été bien utile. On a trouvé des fossiles à la base des trappes du Deccan et également entre les coulées. Il y a eu des moments où le volcanisme s'arrêtait, un lac se mettait en place, il y avait des sédiments au fond de ce lac et des bestioles ont été fossilisées dans ces sédiments. Et on a trouvé qu'en effet, le volcanisme avait bien commencé dans le dernier étage de l'ère secondaire. La coupe que vous voyez à droite est une coupe synthétique qui vous montre la pile des laves du Deccan en blanc et en gris les sédiments qui sont au-dessous et au-dessus et des toutes petites séries de sédiments qui sont ces fameux lacs qui se sont mis quelquefois en place entre les éruptions. Vous avez le nom des fossiles qu'on a trouvé à droite. Vous avez la polarité magnétique au milieu, je n'entre pas dans ces détails. Et vous avez à gauche, avec des petites montagnes russes, une courbe qui est l'idée que nous avons de l'intensité du volcanisme au cours du temps. En un mot commençant, les trois observations que je viens de vous résumer nous conduisent à dire que les trappes du Deccan se sont mises en place il y a 65 millions d'années, en moins d'un million d'années et peut-être même pour leur phase paroxysmale en quelques centaines de milliers d'années seulement, pendant la période qui a connu la limite Crétacé-Tertiaire. Donc les trappes du Deccan sont bien de la même période, attention avec cette précision de quelques centaines de milliers d'années que nous ne pouvons pas dépasser, que nous permet la stratigraphie et la paléontologie et la géochronologie. On a depuis fait mieux avec des collègues indiens, en particulier le professeur Bhandari de l'université d'Ahmedabad. Nous sommes retournés en Inde. Vous avez un tout petit timbre-poste en haut au milieu de cette figure qui vous montre l'Inde. Vous reconnaissez sa forme. Un tout petit carré dans un coin à gauche qui représente la province ou la région qu'on appelle le Kutch. Et à côté, une carte géologique illisible pour vous, je le sais bien, de là où vous êtes, qui représente les coulées de lave successives des trappes du Deccan dans cette région du Kutch. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a ces fameux sédiments coincés entre les laves et que dans ces sédiments, c'est ce qui est figuré de façon très peu lisible en bas à gauche, on a retrouvé l'iridium. On a donc retrouvé dans des sédiments d'un lac qui s'est mis en place entre deux coulées, la trace de l'impact qui se produisait de l'autre côté de la Terre, dans le Yucatan, il y a 65 millions d'années. Et donc, la séquence est claire. Le volcanisme avait commencé, il était en plein boom. Il avait déjà déposé sans doute des centaines de mètres d'épaisseur de lave depuis quelques centaines de milliers d'années et sans doute la biosphère était stressée par les émanations de ces éruptions quand par-dessus tout ça, l'impact est tombé et il ne peut donc pas avoir déclenché, comme on l'a pensé un moment, ces éruptions volcaniques puisqu'il est tombé alors qu'elles avaient déjà commencé. L'argument géologique, stratigraphique est imparable. Moi, je pense que tout ça, ça suffit largement pour mettre la puce à l'oreille et montrer que ces trappes du Deccan, c'est un événement d'une intensité exceptionnelle, comme il ne s'en est produit aucun depuis une trentaine de millions d'années sur Terre. Et imaginez qu'il y a eu un impact climatique et raisonnable. Je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est toute une spécialité et c'est un des domaines dans lequel en ce moment la recherche est la plus active. Cette figure-là, je n'avais pas pu la montrer il y a deux ans parce qu'elle n'était pas encore construite. On a maintenant une idée un peu plus claire de la façon dont ces éruptions volcaniques énormes perturbent le climat et donc perturbent la biosphère et peuvent altérer la végétation et les chaînes trophiques, les chaînes de nourriture des animaux inférieurs vers les animaux dits supérieurs. Ce diagramme en anglais un peu compliqué, je ne vous demande pas de le lire, il est là juste pour vous montrer, dans le cas d'ailleurs d'une autre éruption que nous allons revoir dans un instant, que c'est l'émission de gaz, en haut à gauche, le gaz sulfureux, au milieu, le chlore et le fluor, à droite, le fameux gaz carbonique, le gaz responsable de l'effet de serre, qui ont conduit, pour le gaz sulfureux, à un refroidissement brutal de l'atmosphère et à des pluies acides, pour le gaz carbonique, plus lentement, à un effet de réchauffement global du même type que celui qui nous inquiète tant aujourd'hui et même peut-être d'une intensité plus grande. Il peut se produire ensuite des tas de phénomènes d'accélération de l'érosion sur les continents, de pluies acides, de glaciation pendant la période froide, de stagnation dans l'océan qui fait que l'océan perd son oxygène, on appelle ça un événement d'anoxie, et que les bestioles y crèvent, et ça donne des sédiments très particuliers que les géologues savent très bien reconnaître, et tout ça, eh bien, ça peut conduire à des extinctions en masse, aussi bien dans le domaine terrestre, continental, que dans le domaine marin. C'est dans ce domaine de la modélisation du climat à la suite d'une éruption volcanique massive et de ses conséquences sur les espèces que j'attends le plus grand progrès dans la dizaine d'années qui vient. C'est, je pense, là que se déplace la frontière de la recherche pour ce sujet. Assez parlé des trappes du Deccan, ayant vu un si bel exemple, on a envie de dire, bon, bah, vous m'avez montré 5 grandes extinctions en masse au cours des 300 derniers ou des 400 derniers millions d'années. Vous venez de me parler pendant 20 minutes de l'extinction de la fin du secondaire, de la limite Crétacé-Tertiaire. Est-ce qu'il y a d'autres trappes et est-ce que ces autres trappes coïncident avec les extinctions en masse? En d'autres termes, comme on sait que les extinctions en masse, c'est ça qui a servi aux géologues au XIXe siècle à construire la fameuse échelle des temps géologiques que vous voyez reproduite à gauche, avec l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, le cambrien, l'ordovicien, le silurien, tous ces étages que vous avez dû au moins une fois dans votre vie voir passer. Eh bien, est-ce que les petits traits horizontaux que vous voyez là, les limites entre ces aires géologiques, ce n'est pas tout simplement les âges des grandes catastrophes volcaniques? Ça serait quand même drôlement excitant si on s'apercevait tout d'un coup que l'échelle de la vie sur Terre, la plupart du temps, n'est autre que l'échelle de la dynamique du globe. Et que c'est la dynamique interne du globe et de ces grandes éruptions volcaniques, ces espèces de hoquets terribles qui se produisent une fois tous les 30 millions d'années ou quelques, qui seraient en fait le squelette sous-jacent de cette fameuse échelle des extinctions en masse et des temps géologiques. Pour voir ça, il nous faut faire l'inventaire des trappes. Voilà une carte du monde où vous voyez en grosses taches noires la dizaine, il n'y en a pas plus, de trappes qu'on a retrouvées à la surface de la Terre. Vous voyez très clairement au-dessus de l'Inde les fameuses trappes du Deccan dont on vient de parler. Et puis au nord, vous voyez des trappes en Sibérie. Si vous allez à l'ouest, vers la région d'Addis Abeba, dans la Corne de l'Afrique, vous voyez des trappes en Éthiopie. Descendez plus au sud et vous arrivez dans les régions des diamants de l'Afrique du Sud, et c'est pas un hasard, à toute trappe son diamant, vous avez la province du Karoo, et puis vous traversez l'Atlantique, vous vous trouvez quelque part entre le Brésil et l'Argentine, et vous avez les trappes du Paraná, puis vous remontez par exemple tout au nord de l'Atlantique, et de part et d'autre de l'Islande et de l'Atlantique Nord, le long de la côte du Groenland et le long de la côte nord-ouest de l'Europe, vous voyez les trappes qu'on appelle les trappes du Groenland. Donc il existe une dizaine de ces objets. Eh bien, depuis que nous avons, il y a 15 ans, mené ces travaux sur les trappes du Deccan, tout le monde s'est rué sur chacun de ces trappes et a été les analyser avec toutes les méthodes possibles et imaginables dans le but de voir si ce qu'on avait découvert au Deccan s'appliquait bien ailleurs. Je n'ai pas le temps de passer en revue tous ces trappes les uns après les autres, mais je vais vous en illustrer quelques-uns pour vous montrer en gros que ça marche. Voilà l'allure qu'avait la Terre il y a 200 millions d'années, la fameuse Pangée. Vous voyez que les continents n'avaient pas encore éclaté, l'océan Atlantique n'était pas encore né. Il y avait à la place de là où sont les Alpes et l'Himalaya aujourd'hui un grand océan bleu qui s'appelait la Tétis. Eh bien, il y a 200 millions d'années, une immense province volcanique s'est formée. Elle a une surface plus grande encore que la tache rouge que je vous ai représentée. C'est d'ailleurs elle qui va présider à la naissance de l'océan Atlantique central. Cette province est représentée dans le petit timbre-poste qui est en haut à gauche de la carte que vous voyez là. Vous retrouvez la Pangée en gris, en noir. Vous trouvez tous les endroits où aujourd'hui on retrouve des traces de ce volcanisme et vous voyez ça agrandi en dessous. Alors, comme ce sont des laves plus anciennes, elles ont très souvent été érodées. On ne retrouve plus, comme en Inde, le feuilleté des laves, mais on retrouve ce qu'il y a en dessous des laves, c'est-à-dire les fissures on appelle ça en géologie les dikes, qui ont servi à les alimenter. Et tous les petits traits que vous voyez là, en Amérique du Nord, en Afrique de l'Ouest, ce sont des fissures de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres de long qui sont le lieu par lequel est arrivée la lave qui a nourri cette immense province. On l'a datée partout, elle a 200 ou 201 millions d'années. Elle coïncide précisément avec la deuxième plus vieille grande extinction en masse, qui est la limite que les géologues appellent la limite Trias-Jurassique. Et en plus, là, on a pu faire des choses qu'on n'a pas su faire dans les trappes du Deccan. On a pu beaucoup plus précisément mesurer la durée totale de l'émission des laves. C'est moins de 600 000 ans. Reculons de 50 millions d'années. Voici l'allure de la Terre, pas très différente, il est vrai, il y a 250 millions d'années. Et bien là, où vous voyez le cercle rouge, à très haute latitude, pas loin des pôles, là où est aujourd'hui la Sibérie, se produit l'une des plus grandes éruptions volcaniques de tous les temps, qui va donner les fameux trappes de Sibérie. Ces trappes sont très connues des géologues et très connues des métallogénistes. Ils sont bourrés de réserves minérales. C'est là qu'on trouve sur la bordure est des diamants, de nombreux métaux précieux et semi-précieux. C'est une des régions minières les plus riches de toute la Russie. Et ce n'est pas un hasard. C'est associé à la mise en place de ce volcanisme qu'on a daté. Et ce diagramme très aride vous montre comment les géochronologues qui utilisent la méthode dont j'ai parlé tout à l'heure, des isotopes 39 et 40 de l'argon, datent les roches. Peu importe, il y en a certains d'entre vous qui connaissent ce type de diagramme. Il montre simplement que partout où on a pu les mesurer, ces roches ont toutes le même âge, à une grande précision, et cet âge, c'est 250 millions d'années. Vous pouvez lire les chiffres de haut en bas, 249,91, 250,08, 250,01, c'est vraiment incroyable, toute cette lave, cet énorme volcanisme, il s'est mis en place il y a 250 millions d'années, et 250 millions d'années, c'est quoi? C'est la plus grande extinction de tous les temps. C'est la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire. C'est la limite Permo-Trias où je vous ai dit que 99% de tout ce qui vivait sur Terre a disparu en moins d'un million d'années, à mon avis, très certainement, à cause de cette gigantesque et rapide éruption. Mais là, se produit un événement nouveau et intéressant qui s'est développé au cours des quelques dernières années et qui s'est confirmé seulement au cours des derniers mois. Là, donc, vous êtes dans de la science qui est en train de se faire. Deux paléontologues américains ont publié il y a 8 ans, vous le voyez, le diagramme de gauche. Ce diagramme montre le taux d'extinction autour de cette limite ère primaire, ère secondaire, mais en zoomant sur la limite et en regardant en détail des sous-périodes, 6 sous-périodes autour de la limite. Alors, l'âge n'a pas été marqué, c'est pas bien, mais le pic de droite, où vous voyez marqué le chiffre 121, ça veut dire qu'il y a 121 types d'espèces qui ont disparu dans le calcul de ses collègues, eh bien, c'est un pic d'extinction qui est le pic à 250 millions d'années, la fin de l'ère primaire. La nouveauté, c'est que vous voyez qu'avant, c'était assez calme, vous avez 3 périodes où il n'y a pas grand monde qui disparaît, et avant, vous avez eu un coup terrible à la fin d'un étage géologique qu'on appelle le Guadeloupien, et donc on s'aperçoit que la grande extinction de la fin de l'ère primaire, en fait, c'est 2 extinctions distantes de environ 8 millions d'années. Il y a 8 millions d'années entre ces 2 gros pics noirs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que d'autres géologues et géochimistes, c'est le diagramme de droite, s'étaient aperçus que le niveau des mers avait changé juste à ce moment-là. Alors, j'aurais dû tourner ce diagramme de droite de 90 degrés, parce que, alors qu'à gauche, le temps coule horizontalement, à droite, le temps coule du bas vers le haut. La courbe montre le niveau des mers et vous voyez que vous avez 2 trous. Les 2 trous, c'est des chutes violentes du niveau des mers de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres. Et il y a 2 pics. Le grand, il est juste à la fin de l'ère primaire, mais il y en a un assez sévère, 8 millions d'années d'avant, avant la fin du Guadeloupien. Ceci m'a conduit, il y a quelques années, à prédire que si notre théorie avait une valeur générale, on devrait trouver un trap pour l'instant inconnu à 258 millions d'années. Et dans le catalogue dont je disposais à l'époque, ce trap n'était pas présent. Eh bien, on l'a trouvé depuis. Voilà une reconstitution de la Terre il y a 258 millions d'années. À l'endroit du point rouge, vous voyez ici au bout du grand océan de la Tétis, dans ce qui est aujourd'hui la Chine du Sud, une grande éruption. Les trappes d'Emeishan s'est mise en place. Pourquoi est-ce qu'on ne les avait pas vues? Cette carte géologique un peu compliquée zoom sur la région frontière entre la Chine du Sud et le Vietnam et vous montre en grisé les affleurements de ces trappes d'Emeichan, ils sont complètement découpés en morceaux, lacérés, broyés par des failles, parce que l'Inde est arrivée depuis, est entrée en collision avec l'Asie et a tout écrabouillé. Et heureusement, ce trap n'a pas été complètement effacé de la face de la Terre. Ça aurait été possible, hein, on aurait pu perdre cette information, mais il en reste assez pour qu'on l'ait trouvé. Et évidemment, quelques équipes se sont précipitées pour essayer de le dater. Et il y a 3 mois, est sorti dans une des plus grandes revues de sciences de la Terre un article de collègues chinois et australiens datant à l'aide d'une autre méthode géochronologique, la méthode uranium-plomb, sur des minéraux particuliers qui s'appellent les zircons, les silicates de zirconium. Ils ont daté les trappes d'Emeichan. Pour l'instant, la barre d'erreur est encore un peu grande. Ils ont trouvé 259, plus ou moins 3 millions d'années, là où nous prédisions 258. Donc vous voyez que je considère, dans la mesure où on peut parler d'une prédiction, quand on prédit quelque chose qui s'est passé il y a 259 millions d'années, évidemment ce n'est pas vraiment une prédiction, c'est une rétro-prédiction, mais vous voyez que c'est comme ça qu'on fait, on élabore une théorie, on dit si elle a une valeur générale, alors on devrait observer ça, on va le chercher sur le terrain, on le trouve ou on ne le trouve pas, là, cette fois-là, on a eu de la chance et on l'a trouvé, et le résultat, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, nous avons déjà 4 trappes qui corrèlent avec les 4 dernières grandes extinctions en masse. C'est les 4 rectangles rouges que j'ai superposés à la figure que vous aviez vue tout à l'heure. Vous voyez qu'on a exposé, on a maintenant une corrélation de trappes à la première, la deuxième, la troisième et la quatrième des grandes extinctions passées. Donc, ce n'est pas trop mauvais comme résultat. Comme j'ai dit que je vous mettrai au courant des toutes dernières recherches, eh bien, dans un programme qui est encore en cours avec des amis russes, nous avons été échantillonner les trappes de Sibérie. Vous avez à gauche une carte géologique des trappes de Sibérie. Vous voyez en grisé, c'est la zone des laves, et puis avec des pointillés divers, c'est les zones d'alimentation des laves, là où elles ont été érodées. Et puis on a été zoomé un peu sur la partie qui est à l'ouest, qu'on appelle la région du rift de Viloui. C'est ce que vous voyez dans le dessin de droite. Et là, il y a des formations géologiques très particulières qu'on appelle des pipes de kimberlite. Les pipes de kimberlite, ce sont des volcans, des cheminées volcaniques très étroites et qui produisent des laves à la chimie très particulière qui sont la plupart du temps associées aux diamants. Tous les diamants d'Afrique du Sud sont trouvés au voisinage immédiat des pipes de kimberlite ou alors ils ont été érodés et transportés par les rivières, donc ils ne sont plus au voisinage immédiat, mais ils se sont fabriqués dans ce voisinage immédiat. Mon collègue russe Vadim Kravchinsky a échantillonné toutes les petites étoiles blanches que vous voyez ici, des dizaines de ces pipes ou pipes de kimberlite. Il a fait des mesures, j'entre pas dans le détail parce que ça serait trop long, de paléomagnétisme. Il a mesuré la direction magnétique fossilisée dans ces laves et il a trouvé 2 paquets de directions. En haut à gauche, dans une projection que je n'ai pas le temps de vous détailler, on a trouvé que tout un paquet de ces laves était aimanté exactement dans la même direction que les trappes de Sibérie. Donc on a tout simplement retrouvé les premières phases volcaniques qui sont sous les trappes de Sibérie et qui ont le même âge, 250 millions d'années. Mais plus intéressant, on en a trouvé en bas à droite tout un paquet qui a une direction complètement différente. Et la géologie nous a permis de voir que toutes ces roches sont datées entre 350 et 377 millions d'années. Or, il y a 360 millions d'années, il y a la cinquième grande extinction en masse, qui est la limite qu'on appelle Franien-Faménien, dont personne pour l'instant n'a encore trouvé la raison ni la source. Nous avons peut-être trouvé les derniers restes sous les trappes de Sibérie d'un autre trappe qui se serait produit 110 millions d'années plus tôt et qui serait responsable de la cinquième, plus vieille, grande extinction en masse. Nous avons ramené des échantillons de ce trappe dans nos laboratoires. Ils sont arrivés il y a 4 semaines. Ils ont été divisés en 2 collections. J'en ai envoyé une chez un de mes collègues californiens à Berkeley. L'autre est dans notre laboratoire à Orsay. Et nous sommes en train de commencer à les dater. Donc, on se mouille. Je vous prédis que pour la prochaine édition de l'UTLS, enfin, je ne suis pas sûr qu'il en faille, en ce qui me concerne, qu'il faille une quatrième, parce que la lassitude viendra peut-être un jour. Mais j'espère que nous pourrons annoncer que nous avons trouvé la cinquième et donc que le pouvoir de prédiction de l'hypothèse que nous faisons est confirmé. Je n'ai, si je respecte le temps qui m'a été imparti, plus beaucoup de temps. Pour vous parler de quelque chose d'inattendu, je voulais vous parler du dernier trap. C'est quand même intéressant de savoir ce qui s'est passé. La dernière fois qu'il s'est passé quelque chose comme ça sur Terre, la plus proche de nous, ce n'est pas les trappes du Deccan il y a 65 millions d'années, ce sont les trappes d'Éthiopie que vous voyez ici, à proximité de la jonction entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, en Éthiopie. Et on les retrouve également au Yémen de l'autre côté, dans la mesure où l'ouverture océanique de la mer Rouge a cassé en deux un ancien trap. Quel âge a ce trap? Nous avons entrepris un gros programme de recherche dans notre laboratoire et même dans beaucoup de laboratoires de sciences de la Terre en France depuis une dizaine d'années. Et on a pu faire là le même travail que celui qu'on avait fait dans le Deccan. Vous avez ici une coupe géologique de la falaise avec les laves de l'Éthiopie. On y a trouvé une aimantation et des âges qui montrent une fois de plus la même histoire. Tout ça s'est fait en très peu de temps, en moins d'un million d'années, il y a 30 millions d'années. Et deux thèses qui ont été soutenues, l'une par Emmanuel Coulier en octobre dernier, l'autre par M. Touchard à Orsay il y a un mois et demi, ont permis de dater de façon extrêmement fine ce phénomène à 30,2 millions d'années, de montrer que sa durée a été inférieure à 800 000 ans, et plus astucieux encore, de montrer qu'on retrouve à des milliers de kilomètres de là, dans l'océan Indien, quand on fait un forage dans les sédiments, les traces des cendres volcaniques soufflées par le vent et déposées à des milliers de kilomètres dans l'océan. Elles ont pile le bon âge, et cet âge, eh bien, c'est l'âge du dernier grand refroidissement qui s'est produit sur Terre. C'est le moment où a commencé en gros la calotte antarctique. Et donc, dans ce diagramme un peu compliqué, que j'aurais voulu mais que je n'ai pas le temps de vous discuter en détail, on peut montrer comment utiliser l'approche dont je vous parle aujourd'hui pour montrer que les trappes d'Éthiopie ne sont pas, comme je le croyais au début, à la limite éocène-oligocène, une des limites que les géologues ont placées au milieu de l'ère tertiaire il y a 33 millions d'années, mais aux surprises, cette limite définie au 19e siècle n'est pas le moment du plus grand trouble de la biosphère. Il semble qu'il se passe beaucoup plus de choses 3 millions d'années plus tard, à un moment qui est la limite entre l'oligocène inférieur et l'oligocène supérieur, donc c'est pas reconnu comme une grande limite, et pourtant, il y a avancée des glaces, chute du niveau des mers, aridité, baisse de la diversité des mammifères, un phénomène bioclimatique significatif, même si c'est pas une grande extinction en masse, et paf, à ce moment-là, il y a un trap. Pour me rapprocher de ma conclusion, eh bien, ce que j'ai fait, c'est de prendre la liste de tous les cratères d'impact de météorites qui sont listés par les collègues dans tous les laboratoires du monde. J'ai pris les impacts dont le diamètre du cratère était de plus de 40 km pour prendre les plus gros. Vous avez toutes leurs listes et tous leurs noms à gauche. Entre parenthèses, vous avez leur diamètre en kilomètres. Et au milieu, vous avez leur âge plus ou moins bien connu. On s'est demandé si ces âges coïncidaient bien avec des limites. Eh bien, pour le cratère de Karakul, qui est en Russie, 52 km de diamètre et qu'on avait daté aux environs de 25 millions d'années, on a montré depuis qu'il ne pouvait pas coïncider avec la limite la plus proche, qui est la limite oligocène-miocène. Pour les cratères de Popigaï et de Chesapeake, qui sont en Russie et aux États-Unis ou au Canada à la frontière, âge de 35 millions d'années, la coïncidence avec la limite éocène-oligocène n'est pas avérée. Et seul le grand cratère du Mexique, il y a 65 millions d'années, à la limite Crétacé-Tertiaire, est valable. Il y en a un qui vient d'apparaître dans la littérature en Afrique centrale, en Afrique du Sud, qui s'appelle Morokweng, qui aurait à peu près l'âge de la limite jurassique crétacée. J'ai donc mis un oui point d'interrogation, mais dans l'état actuel de nos connaissances, et Walter Alvarez, l'auteur de la théorie de l'impact à qui j'en parlais à Berkeley et à UCLA il y a quelques mois, m'a dit qu'il en était d'accord. Après 20 ans de recherche assidue, on n'a trouvé qu'un seul impact clairement associé avec une extinction. Au contraire, si je compile maintenant l'âge de tous les trappes que je viens de vous montrer à la queue leu-leu et je ne reprends pas leur nom, ni leur âge, ni leurs limites, et que je me pose les mêmes questions, et j'aurais pu décrire un peu chacune d'entre elles, mais là, je vous les fais défiler en rafale. Le résultat, vous comptez les oui, vous comptez les oui points d'interrogation, vous comptez les non et vous faites un vote. Parenthèse, la science n'est pas une activité démocratique et on y vote. Et la vérité n'est pas révélée par des votes dans ce domaine-là. La réponse, c'est qu'il y a un très grand nombre de cas qui marchent bien. Et sur cette corrélation, qui est celle que j'avais entreprise il y a 16 ans et qui ne cesse de s'améliorer d'année en année, on est maintenant capable, vous voyez que j'ai étendu ma droite en haut à droite, de rajouter probablement un point sur la courbe. Eh bien, tous les points rouges sont les points pour lesquels il y a coïncidence aussi bonne qu'on est capable de l'affirmer avec la précision de nos datations aujourd'hui, entre l'âge d'un trap et l'âge d'une limite. Et ce dessin que j'avais fait il y a quelques mois pour préparer un exposé en Californie, eh bien, il n'est même plus à jour, car est venu dans notre laboratoire il y a quelques mois, faire un exposé notre collègue hongrois, le professeur Palfi, qui m'a signalé pour le point que vous voyez au milieu avec un gros point d'interrogation rouge à côté de deux points jaunes où je me disais « ça colle pas », les trappes du Karoo, les fameux trappes des diamants d'Afrique du Sud, ne collent bien avec aucune extinction. Eh bien, un très joli travail géologique de notre collègue Palfi a montré que la corrélation était parfaite. Et il y a maintenant, je n'ai même pas eu le temps de refaire le dessin, un point rouge supplémentaire et donc au total, 8 points rouges sur la courbe. Et je me suis mouillé. Le point qui est tout en haut à droite, c'est celui qu'on est en train de dater. Et il, ou bien il disparaîtra et la réponse sera non, ou bien la réponse sera oui, sans doute, avant la fin de l'année. Avec beaucoup d'élégance, mon collègue Alvarez, à qui j'exposais ces résultats il y a quelques mois, a reconnu que désormais, pour un cratère d'impact associé à une extinction, il acceptait sur mes 10 trappes, ou moi je dis il y en a 10 qui marchent, au moins 4. Il disait « je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais j'en accepte 4, et 4 c'est déjà 4 fois plus que les impacts. Je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas dogmatique », me disait-il. « Je suis prêt, non pas à changer d'avis, mais à dire que la plupart du temps, les extinctions, c'est des éruptions, mais tu ne m'enlèveras pas mon éruption de la limite Crétacé-Tertiaire, ça, c'est mon impact. » Et à mon avis, Walter, qui a fait un travail magnifique, ce travail de la limite Crétacé-Tertiaire, de l'impact et de l'iridium, restera un travail important dans l'histoire des sciences de la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, je lui poserai la question suivante, qui est la nouvelle façon de formuler la question. Oui, il y a un impact à la limite Crétacé-Tertiaire, mais il tombe dans un monde qui, depuis plus de 200 000 ans, était stressé par une énorme éruption volcanique, celle des Trappes du Deccan. Or, j'ai 8 autres exemples qu'une éruption volcanique toute seule, sans aucun impact, peut faire une extinction en masse. Donc, celle-ci avait dû commencer à stresser la biosphère. J'attribue aux premières phases d'éruption les extinctions que certains paléontologues pensent voir avant la limite de l'iridium. Et quand l'impact est tombé dans ce monde stressé, il a donné un tel coup à des espèces déjà fragilisées qu'il a en effet directement causé 2/3 peut-être de toutes les extinctions au moment où il s'est produit, mais ça ne se serait à mon avis jamais produit si la biosphère n'avait pas été pré-stressée, pré-conditionnée par l'événement volcanique. Si les Trappes du Deccan n'étaient pas sorties de terre et que l'impact du Chicxulub était tombé, il y aurait peut-être eu une extinction en masse, certainement beaucoup plus petite, et je n'en suis même pas sûr. S'il y avait eu les Trappes du Deccan seules, ils auraient probablement créer une extinction en masse peut-être plus petite, mais certainement quand même quelque chose de significatif. La conclusion de mon message, et je remets ce petit dessin animé à chaque fois parce que je sais que ça relaxe l'auditoire et que ça vous amuse toujours, voilà le balai de la dérive des continents. Et de temps en temps, si vous regardez avec attention, vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Un gros point rouge qui flash, c'est un trap. Chacun des trappes qui vient ponctuer chacune des extinctions, mais aussi, et c'est aussi important pour le géophysicien que je suis, chacune des ouvertures de bassins océaniques. La géographie du monde, la géographie de l'océan Atlantique, c'est la mémoire des grandes trappes, c'est la mémoire des grands bassins océaniques. Eh bien, ce balai, il fonctionne depuis au moins 250 et probablement depuis beaucoup plus longtemps. Si on montre que les trappes de la limite Franien-Famenien collent, ça fait au moins 400 millions d'années que ce système fonctionne. Et la question finale qu'on est en droit de se poser, et c'est celle à laquelle je voudrais vous amener, et c'est celle qui, d'une certaine façon, justifie, même s'il n'en aurait pas besoin, le travail du géologue, il se justifie par l'avancée des connaissances qu'il représente, mais en plus, il a potentiellement un intérêt sociétal direct, dans la mesure où nous sommes dans une période où l'homme est en train de modifier le climat en injectant des aérosols, comme vous le savez, dans l'atmosphère, que ce soit les chlorofluorocarbures et l'effet qu'ils ont sur le trou d'ozone, que ce soit le gaz carbonique et l'effet de serre qui semble désormais avéré, eh bien nous sommes en très peu de temps par rapport au temps des géologues en train de devenir un véritable agent géologique. Il n'est pas impossible que ce que nous faisons à la biosphère, ça ressemble à ce que fait un trappe. L'homme est peut-être un trappe et ça le fera peut-être, mauvais jeu de mots, passer à la trappe. En tout cas, c'est peut-être un endroit où le géologue peut aider le prévisionniste du climat. Vous entendez tout le temps dire « il faut améliorer les modèles de climat ». Racontez-nous ce que va être l'augmentation de la température si on ne fait rien, si le protocole d'Oslo, si on n'arrête pas la production de gaz carbonique, de chlorofluorocarbures. Eh bien, je pense que, paradoxalement, autant que le climatologue, c'est le géologue, avec son expérience de terrain sur la durée du temps profond, qui pourra y apporter, et c'est un autre des éléments de recherche qui va se développer énormément dans les années qui viennent, des éléments de réponse. Et le futur, me direz-vous, Eh bien voilà, je vous l'annonce, voilà les 30 prochains millions d'années de dérive des continents. En rouge, voilà, ça s'est passé vite, hein. Vous venez de voir passer 30 millions d'années, vous n'avez même pas eu le temps de vous en apercevoir. En rouge, c'est les endroits qui ont beaucoup changé. L'Inde continue à écraser la Chine. Vous voyez que l'Australie est en train d'écraser les Philippines et de monter là un nouveau Tibet. Le golfe Persique est fermé, la mer Rouge s'est ouverte et Los Angeles, sur la toute petite languette rouge que vous voyez en Californie, est en train de passer au large de San Francisco en voie vers sa disparition définitive dans la fosse des Aléoutiennes. Et bien évidemment, il se produira un nouveau trap. Il y a en gros des traps tous les 30 millions d'années. Il y en a eu depuis 400 millions d'années. C'est un des éléments fondamentaux de la dynamique de la Terre. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'il ne s'en produise pas un autre. Alors, la question, c'est quand ? Et la réponse, la voilà. Merci.
Les mécanismes du volcanisme des trappes, le mécanisme des volcanismes des trappes, est-il spécifique ou s'inscrit-il dans un contexte du genre subduction, point chaud, etc., etc. En deux mots.
La réponse est oui, c'est un mécanisme spécifique. C'est un des modes fondamentaux de fonctionnement de la dynamique du manteau terrestre. C'est un mode qui semble différent de celui de la tectonique des plaques et de la dérive des continents. Il n'a en gros aucune relation simple avec les subductions dont vous parliez. Il est un mode indépendant. Il est par contre lié avec les points chauds dont vous avez parlé. Un trap, ce n'est autre que la naissance d'un point chaud. Le point chaud de la Réunion. La dernière trace active de ce qui s'est produit dans le décan il y a 65 millions d'années, si vous voulez aller la voir, c'est le volcan du Piton de la Fournaise à la Réunion. Un volcan identique est Hawaï. Hawaï a commencé comme un trap. Mais comme le trap a dû disparaître dans la zone de subduction du nord-ouest Pacifique, dans les Kouriles et le Kamtchatka, on en a perdu la trace.
En vous entendant, on est sûr que la liaison trap-extinction ne se discute pas. Est-ce qu'il y aurait une liaison météorite-trap, étant donné que, d'après ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, les météorites... plus exactement, les chutes de météorites ayant donné, ayant l'importance que vous avez évoquée, peuvent être effacées du globe pour des raisons d'érosion, etc. Donc, est-ce que au cours de ces trappes, il ne s'est pas produit, ou il aurait pu se produire des chutes de météorites ?
Alors, d'abord, bien évidemment, avec le ton de mon exposé et les simplifications que demande la vulgarisation scientifique, j'ai plutôt essayé de vous convaincre que ce que je vous racontais était vrai que de vous convaincre que c'était faux. Et j'ai donc essayé de vous montrer honnêtement qu'il y avait un faisceau de, non pas de preuves, mais un faisceau d'observations très fort pour considérer l'hypothèse volcanique de façon très sérieuse. Ceci dit, votre phrase prise de façon littérale, j'y répondrai non, ça se discute toujours. Et ce que je vous ai raconté et à quoi aujourd'hui je crois doit continuer à se discuter. Je pense simplement que le poids de la conviction en 20 ans est passé de l'impact vers la météorite. Mais le paradoxe, vous l'avez vu, c'est que contrairement à certains qui veulent opposer volcanisme et météorite, je n'oppose pas les deux. Les deux sont des processus réels qui se sont produits tous les deux. Simplement, je pense que l'impact du Yucatan est le seul à coïncider avec une extinction et que comme il se produit pendant un trap, il n'est pas sûr qu'à lui seul, il aurait suffi. Par contre, dans le premier milliard d'années de l'histoire de la Terre, qui nous est entièrement effacée, il devait y avoir des impacts gigantesques et qui ont dû avoir des effets considérables sur l'histoire de la Terre à l'origine. Je pense que le premier milliard de l'histoire de la Terre, dont je rappelle qu'elle en a 4,5, le premier milliard d'années était le milliard des astéroïdes. Je pense que le dernier milliard que nous venons de vivre est plutôt celui des points chauds. Alors maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une connexion entre les deux ? A priori, oui. Ça a été proposé par plusieurs personnes avec comme idée un impact TAP et l'effet est si grand que ça conduit une perturbation des contraintes dans la lithosphère et in fine à l'éruption d'un trap, soit au point d'impact, soit même plus astucieusement au point opposé, où les ondes sismiques de l'impact se refocalisent et peuvent éventuellement craquer la lithosphère. Je vous ai montré que si notre observation faite avec le professeur Bandari en Inde, qu'on a trouvé de l'iridium au milieu des trappes du Deccan est juste, alors vous avez la preuve stratigraphique, avec de la géologie de base du 19e siècle, que le volcanisme avait commencé avant l'impact et que donc il ne peut y avoir aucune relation causale entre les deux. Si vous lisez la presse, ou si vous lisez Pour la science, il y a quelques mois à peine, il y a eu un article qui vous a dit « Mais attendez, j'ai trouvé les traces d'un impact à la limite Permo-Trias, à celle dont vous m'avez dit, c'est dû aux trappes de Sibérie. » Attention, vous en avez deux donc. Et je vous répondrai que plusieurs équipes ont tenté de reproduire les observations de la collègue qui a fait cet article dans Pour la science et qu'on s'est, hélas pour cette collègue, aperçu dans toutes les équipes qui l'ont refait que tous ces résultats étaient faux. Il n'y a aucune trace d'impact, contrairement à la limite Crétacé-Tertiaire, à la limite Permo-Trias. Et l'article publié dans le Pour la science il y a quelques mois est entièrement faux. Et comme vous le savez, on ne peut jamais dire en science que quelque chose est vrai, mais on peut dire que quelque chose est faux.
Oui, tout ceci est-il vraiment incompatible? Parce que vous avez constaté que l'impact du Yucatan, les traces en ont été à peu près effacées, et c'est seulement parce qu'on a cherché là qu'on les a trouvées sous terre. On sait qu'il y a du volcanisme sans météorites. Vous ne donnez pas la raison du volcanisme. Est-ce qu'on peut supposer que, même s'il y a du volcanisme sans météorites, il peut y avoir une augmentation, cause d'extinction, de volcanisme consécutif à un impact de météorites dont les traces ont été effacées? Plus on remontera loin, plus les traces seront effacées et moins on pourra faire cette relation de cause à effet.
Alors, je suis en train de chercher, comme vous le voyez, à vous illustrer ce qui va être mon propos, mais je ne sais pas où je l'ai fourré. Je vais voir ça, mais je ne suis pas sûr que ça soit ça. Je répondrai en deux temps. Le premier, c'est... Une bonne partie de la science consiste à dire qu'il n'est pas utile de faire compliqué quand on peut faire simple. Oui, mais ça, c'est une bonne remarque et c'est une profonde discussion en science. La réalité est compliquée. L'approche du scientifique reste d'essayer de découper les problèmes, de les comprendre par morceaux, de leur trouver les explications les plus simples, d'éliminer ensuite des familles d'explications dont on peut montrer qu'elles ne sont plus acceptables et d'être petit à petit conduit vers un modèle compliqué. Or, j'ai réussi à trouver un modèle simple, je vous ai montré ce modèle simple. Ce que vous dites pourrait être, il pourrait y avoir des tas de traces effacées de tas d'autres choses, chercher des choses qu'on ne voit pas alors qu'on a une théorie simple qui explique les observations, ça n'est pas la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est quand on aura fait une observation qui nécessitera de réviser cette théorie, eh bien, on sera amené à se poser une autre question. Néanmoins, il faut toujours rester alerte et se dire, bien sûr que ça pourrait être quelque chose d'autre. Ceci dit, j'étais en train de chercher mon dessin. Voilà, la figure que je cherchais, elle est là. Elle n'est pas formidable, mais je vous la montre. Voilà une coupe de la Terre, telle qu'on peut l'imaginer. Et vous me disiez tout à l'heure... Vous ne m'avez pas dit quelle était la raison des trappes. Pourquoi ? Parce que c'est une conférence entière sur la dynamique de l'intérieur du globe où on parle ni trappe ni extinction, qui est la conférence sur qu'est-ce qui se passe dans le manteau de la Terre, quelles sont les instabilités et quels sont les points chauds. Eh bien, il se produit dans la Terre des instabilités de très grande taille. C'est les gros champignons jaunes que vous voyez à l'équateur, qui sont l'un situé sous le Pacifique, l'autre sous l'Afrique. Celui du Pacifique, c'est lui qui fabrique Tahiti. Celui de l'Afrique, c'est lui qui fabrique le Tibesti. Et puis, vous avez un peu plus loin des panaches beaucoup plus minces et beaucoup plus profonds. C'est eux qui fabriquent Hawaï, c'est eux qui fabriquent l'Islande, la Fare. C'est l'un d'entre eux qui, il y a 65 millions d'années, est né comme le Deccan et continue aujourd'hui comme la Réunion que vous voyez en bas à droite. Donc oui, on a une idée très claire de ce qui, à l'intérieur de la Terre, fabrique les trappes. Et c'est très important pour la dynamique des plaques. Et ça n'est pas la dérive des continents. Et donc, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que le volcanisme sur Terre s'explique à partir, comme on nous le dit depuis 30 ans, de la dérive des continents, pour l'essentiel, mais aussi de quelque chose qui se surimpose par-dessus, c'est ces instabilités qui viennent percer comme des chalumeaux la tectonique des plaques et qui fabriquent les trappes et les points chauds.
Monsieur, je crois que la radioactivité est en grande partie responsable de la viscosité ou de la fluidité des laves. Comment se fait-il que l'on entend très peu parler de la radioactivité résiduelle des épanchements ?
Alors, ça, c'est une autre question qui est un peu compliquée. Prenons la coupe que vous voyez sur la diapositive derrière. Quand la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, elle s'est agglomérée à partir d'objets de type comète ou astéroïde, et elle contenait des éléments radioactifs. À cause de ces éléments radioactifs qui chauffent, elle s'est mise à chauffer. Le fer qui était lourd et dense est tombé au milieu, c'est lui qui fait le noyau. Et ce qui restait de roches radioactives, pour l'essentiel d'éléments radioactifs, a été amené vers la surface. Et aujourd'hui, l'endroit le plus riche en éléments radioactifs, c'est la croûte continentale. Il y a plus d'éléments radioactifs dans la croûte granitique en Bretagne ou dans le Morvan ou en Alsace qu'il n'y en a au milieu de l'océan Atlantique ou dans les bassins sédimentaires, comme ici dans le bassin parisien. Ces éléments radioactifs d'aujourd'hui continuent à chauffer très doucement. C'est certes la grande chaleur larguée à l'intérieur du manteau depuis un temps fou par ces éléments qui, réchauffant le matériel, est un des moteurs de la dérive des continents, conduit à rendre les laves plus fluides et crée les mouvements de convection dans le noyau. Donc vous avez raison de dire que la radioactivité du cœur du manteau est une des sources de la machine terrestre. Par contre, le nombre d'éléments radioactifs qui restent dans un morceau d'étrape du Deccan ou dans un morceau de granit armoricain, c'est quelque chose de totalement négligeable par rapport au processus de chauffage, et donc ça n'a aucune influence sur la viscosité des laves aujourd'hui. Ce qui a une influence sur la viscosité des laves, c'est la chaleur accumulée qui a conduit à les former en profondeur à partir de ce qu'il y a dans le manteau.
Il y a quelques années, j'avais lu un article sur un supervolcan qui serait sous le parc de Yellowstone. Est-ce qu'il y a un rapport entre le supervolcan et les trappes ?
Alors, en effet, Yellowstone n'est pas... Et je ne sais plus... Non, je crois qu'il n'était pas sur la carte mondiale des trappes que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y a, non loin du parc de Yellowstone, un peu à l'ouest pour ceux qui y sont allés, deux provinces géologiques passionnantes dans l'ouest américain, dont une qui s'appelle la vallée de la rivière du Serpent, la Snake River, et les basaltes de Columbia. Il y a la rivière Columbia qui passe à côté. Si vous vous promenez là-dedans, vous trouvez que ça ressemble à un trappe. Et vous aurez raison. C'est le plus petit trappe du monde. Il a en gros 100 000 km3. Il est 10 à 50 fois plus petit que les autres. Et certaines personnes ont pensé que ce trappe était lui-même le produit d'un point chaud et que ce point chaud, sa trace actuelle, était sous Yellowstone. Donc Yellowstone, c'est l'équivalent de l'île de la Réunion. Et les trappes de Columbia, c'est l'équivalent des trappes du Deccan, sauf qu'il est tout petit, pour des raisons que j'ignore. C'est un objet que j'aurais pu mettre dans la catégorie qui est là, mais il est beaucoup, beaucoup plus petit que tous ceux dont je vous ai parlé.
Par rapport à la figure qui est affichée, là, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les trappes pourraient résulter des champignons qu'on voit, des gros champignons ? Est-ce qu'il peut y avoir une relation de cause à effet, par exemple ?
Il y a une relation de cause à effet entre les trappes et les petits champignons jaunes qui sont situés sous l'Islande, la Fare, etc. Les très gros.
Bon, d'accord.
Les très gros, c'est autre chose.
Et une deuxième, est-ce que les animations que vous nous avez présentées sont disponibles quelque part ? Je pense à Internet, par exemple.
Les animations que je viens de vous présenter sont dans une version un tout petit peu simplifiée, disponibles sur Internet, sur le site de l'Institut de physique du globe de Paris. Si vous avez un crayon, www.ipgp, comme Institut de physique du globe de Paris, .jussieu.fr. Et à l'intérieur de ça, vous allez dans les équipes de recherche à paléomagnétisme et vous allez dans la page web de mon collègue Bess, BE2SE. Et ces dessins animés sont dans sa page web et téléchargeables.
Je voulais vous demander, enfin, vous avez répondu partiellement à une question que je me posais concernant les différences que pouvait entraîner le lieu géographique des trappes, en fait. Par exemple, en quoi ça modulait l'effet sur le climat, que ce soit sous les mers ou terrestres. Et j'aurais aimé que vous détailliez un peu plus.
Alors, je ne peux pas détailler beaucoup parce que ce que je vous ai dit, c'est à peu près tout ce que je sais. C'est-à-dire que ce sont des hypothèses à travailler dans les années qui viennent. Mais enfin, en gros, vous avez vu, pour ceux qui ont eu le temps de regarder, j'essaye pas de ramener la figure devant vous, sur ma carte mondiale des trappes, il y avait une énorme tache noire complètement à droite dans l'océan Pacifique, qui est un grand plateau volcanique sous-marin qui n'affleure nulle part à la surface de la mer, qui s'appelle Ontong Java. Ça n'a rien à voir avec l'île de Java. Ce plateau d'Ontong Java est un des plus gros trappes du monde. Il s'est entièrement fabriqué sous l'eau. On connaît parfaitement sa date. Elle correspond à un événement que les géologues avaient déjà repéré, qui est un événement d'anoxie mondiale, c'est-à-dire que les eaux du fond de l'océan ont été privées d'oxygène et il s'est produit des modifications significatives. Donc on voit quelque chose, mais ce n'est pas le moment d'une grande extinction en masse. Pourquoi ? Parce que l'eau de l'océan a une telle masse qu'elle est capable de dissoudre et d'absorber en particulier la totalité du SO2, du soufre, qui sort du volcan. Tandis que si, comme dans les trappes de Sibérie, qui se sont produits complètement à l'air libre, le soufre est craché directement et avec violence dans la haute atmosphère, à ce moment-là, il entre dans le cycle climatique et il entraîne un refroidissement, éventuellement même une glaciation, en tout cas un hiver généralisé et des pluies acides. Il pleut de l'acide sulfurique en gouttelettes, alors que cet acide ne pleut pas quand l'éruption s'est faite sous la mer. Je viens de vous donner les cas extrêmes parce que c'est les plus faciles. Ce qui serait intéressant, c'est de faire plus fin, c'est-à-dire d'aller les prendre un par un et de voir pourquoi chacun d'entre eux est un peu différent de son voisin.
J'ai eu la fin. Vous aviez parlé d'un trap qui était entre la côte du Groenland et l'Europe. Enfin, la côte de l'Europe, il y avait de la mer entre les deux, c'est ça qui m'a...
Il n'y avait pas encore la mer entre les deux, car quand les trappes du Groenland sont sorties, il y avait de la mer dans le Labrador, mais il n'y avait pas la mer dans le nord de l'Atlantique. Ceci dit, en effet, les trappes du Groenland se sont faites en partie sous l'eau, en partie à l'air libre, et 5 millions d'années après les trappes du Deccan. Donc le fait qu'une partie soit faite sous l'eau et le fait qu'ils aient affecté la Terre 5 millions d'années seulement après la crise précédente est probablement responsable du fait que ça n'ait pas fait une grosse crise, parce que les bêtes qui auraient dû être éliminées, elles venaient de l'être. Donc si vous avez une deuxième crise peu de temps après une première, il se peut que l'effet en soit réduit. Mais tout ça, c'est un peu qualitatif. Ça mérite d'être travaillé plus.
Je suis enseignante à l'école primaire. Que dois-je dire à mes élèves lorsqu'ils me demandent pourquoi les dinosaures ont disparu, maintenant avec vos dernières découvertes ?
Je vais répondre indirectement et vous me tendez là une perche redoutable. D'abord, je supplierai non pas les professeurs de l'enseignement primaire, mais les professeurs de l'enseignement secondaire de ne pas tout raconter à leurs étudiants. Le cours de terminale est d'un degré de modernité, de complexité et de technicité qui, à mon avis, est incompatible avec l'enseignement raisonnable d'un étudiant de terminale. Et le résultat, c'est que nous arrivent en première année de premier cycle des étudiants qui, soit quand ils sont fanatiques, ont tout appris à tel point qu'on n'a plus rien à leur apprendre. Ça encore, ce n'est pas dramatique, mais pour la plupart d'entre eux, n'ont rien compris et rien retenu parce que c'était trop difficile. Et donc les programmes de terminale en biologie et en géologie sont beaucoup, beaucoup trop difficiles. Et je me suis fait appeler Arthur il y a une dizaine d'années dans une réunion de professeurs du secondaire parce que j'avais dit que mon conseil pédagogique, c'était de prendre le livre de terminale, d'en déchirer 80% de façon aléatoire et de passer l'année à enseigner bien et tranquillement les 20% qui restent. Il vaut mieux avoir bien fait un peu moins que trop qu'on n'a pas retenu. Au primaire, c'est complètement différent. Et à la question, si je peux encore imaginer... Si j'étais encore capable de mettre dans l'esprit du petit Nicolas ce que j'attendrais comme réponse en disant pourquoi les dinosaures ont disparu, je dirais ils ont disparu probablement parce que le climat a été modifié d'une façon terrible. Cette façon n'est pas une façon qu'on connaisse aujourd'hui, c'est pas la peine de leur dire qu'on est en train de faire la même chose tout de suite. Et puis c'est pas sûr. Et ensuite, je dirais, maintenant, la cause première et directe, c'est le climat. Qu'est-ce qui a changé le climat ? Et donc, je ferai ça en deux temps. Et je dirais, ça peut être plusieurs choses. Et il y a des gens qui ont proposé que c'était un impact d'astéroïdes. Et il y a des gens qui ont proposé que c'était un volcan. On a trouvé des cas où c'était probablement l'un. On a trouvé des cas où c'était probablement l'autre. Tu verras plus tard.
Vincent Courtillot, merci.